Corde 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous, et nous continuons la suite, je dirais, de l'émission d'il y a 15 jours, qui portait sur les abeilles, puisque l'ONU nous a fixé le 19 comme une journée pour réfléchir à la place des abeilles dans le monde actuel. Et donc, on l'a fait une fois, et on refait une deuxième émission maintenant, après le 29, mais ça ne fait rien. Ça ne va rien nous apprendre, mais c'est l'occasion de réfléchir à la place des abeilles dans notre monde moderne, dans ce monde que nous voulons construire ou que nous sommes obligés de construire, et ce corps de 2022 là, qui avec le changement climatique et tout le reste. Et alors la dernière fois on a parlé surtout des abeilles avec l'essaim, le travail des abeilles, etc. quoi. Et on a vu un peu, on a évoqué que au Moyen Âge, même plus tard, on avait un imaginaire qui se greffait sur l'observation des abeilles, et on en avait tiré un certain nombre de choses comme la place de l'ordre, de l'obéissance dans la société, des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, on va prendre un autre aspect du problème des abeilles, il y en a en pagaille, hein. Mais on va parler du miel, parce que sans les abeilles, il n'y a pas de miel, et en dehors des abeilles, il n'y a pas de miel. Je veux dire que le miel, c'est vraiment le produit phare des abeilles, elles ne font que ça, leur vie, c'est de fabriquer du miel. Sans les abeilles, eh bien, normalement, il n'y a pas de miel. Et donc, tout le monde, on ne connaît pas d'autres animaux, d'autres engins sur Terre qui nous produisent du miel. Donc, il faut réfléchir au miel. Or, le fait que l'ONU nous demande de réfléchir sérieusement à la question vient d'une chose, c'est que nous n'avons plus de miel sur Terre. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Les abeilles, non seulement risquent de disparaître et donc de moins polliniser les fleurs, donc ça va changer les fleurs, ça va changer la botanique, ça va changer la nature, etc. Les abeilles risquent de ne plus faire de miel, ou très peu, et donc tout nous dit que et on risque de ne pas avoir de miel. Mais sans aller jusque-là, si aujourd'hui, on part d'ici, on va à Carrefour, on va sur une grande surface quelconque, et on veut acheter du miel, on n'en trouvera pas. On trouvera des tas de pots étiquetés miel, mais sans miel à l'intérieur, avec des miels fabriqués à partir de saccharose, à partir de tas de produits. Et c'est un gros problème, et c'est celui que nous allons auquel il est bon de réfléchir ici, parce que le miel a une telle importance dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de notre imaginaire, de notre réflexion, de notre philosophie, de notre civilisation en général, quoi. Que si on n'a pas vraiment, si on abandonne le miel, on risque, pas en l'espace de 20-50 ans, non, mais on risque dans l'avenir d'avoir des problèmes extrêmement importants. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous proposer une réflexion sur la place du miel dans notre vie personnelle, dans notre comment le miel nous a amené, nous, êtres humains, à concevoir un certain nombre de choses. La mort, le sexe, la vie en société, etc., notre vie personnelle, la nourriture et tout ça, d'une certaine façon. Le miel nous a amené, en l'espace de 30 ou 40 000 ans, mais enfin, c'est l'histoire humaine, eh bien, il a pris son temps pour nous transformer, mais voilà. Alors, si on regarde cela, on va faire un peu de philosophie au sens large du mot. Oui. C'est, nous sommes, quand on se regarde, chacun d'entre nous, la première chose que, quand on se pose la question « qui suis-je ?», la première de toutes, c'est « est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme ?» Bon, d'accord, il y a l'homosexualité qui se greffe aujourd'hui là-dessus, ça pose d'ailleurs un problème particulier, mais même sans ça, même en laissant de côté le problème de l'homosexualité, chacun d'entre nous est confronté à cette question, cette caractéristique, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme ? Et au niveau individuel, c'est vrai, mais au niveau collectif, c'est la même chose. Est-ce qu'on est à plusieurs et qui a le pouvoir, comment se construit la société, etc. Or, cette caractéristique que nous avons, c'est-à-dire d'être sexué, elle vient de notre corps. Elle vient pas de, c'est pas des idées en l'air, etc. C'est notre chair qui est fabriquée, et par rapport à ça, on n'y peut rien. Bien sûr, la médecine y peut un certain nombre de choses, mais en général, bon, on est un homme ou une femme. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette place du corps ? Eh bien, c'est que le corps, il a une caractéristique, c'est que petit à petit, il se détruit, il s'abîme. Il pourrit, il devient une ordure, un jour ou l'autre, inexorablement, que ce soit au bout de 50 ans ou au bout de 100 ou 120 ans, peu importe, on va se retrouver, disons pour aller vite, de nouveau dans l'humus, dans la terre, on va être enterré. Bref, notre parcours en tant qu'être humain, le parcours de notre corps, c'est d'une marche vers la mort et vers la pourriture. C'est pas agréable, peut-être, mais ça, c'est une autre question. C'est la réalité est là. Nous sommes des êtres qui vivons en direction de la mort, et ça marque chacune de nos secondes, même si on n'y pense pas. Avant d'aller plus loin, on fait une petite pause.
CFM Radio, CFM.
Gashu no me mena, גשונום מנה יולו גשונום מנה גשונום מנה יולו גשונום מנה גשונום מנה יולו גשונום מנה גשונום מנה יולו גשונום מנה
Michel Bonnet. Donc, notre corps est marqué par cette tendance inexorable à aller vers la dégradation, vers la pourriture, donc vers la disparition du corps. Et ça, ça a provoqué, au cours des millénaires, une réflexion, un rêve, se disant « Ah, si on n'avait pas de corps, qu'est-ce que ça serait bien ?» Et c'est comme ça que l'humanité, selon les civilisations, bien sûr, selon les cultures, plus ou moins, mais restons dans le monde, par exemple, à prédominance occidentale, on a pensé qu'il pouvait exister un univers où il n'y aurait pas de corps, où tout au moins il y aurait des corps, des êtres vivants, mais sans corps. Et être vivant sans avoir un corps, c'est ce qu'on appelle habituellement être Dieu. C'est un être comme ça qu'on est dans les nuages, voilà. Et donc autrefois, ben les dieux, ils étaient dans le ciel. Alors il y avait les astres, il y avait Vénus, il y avait Mars, etc. Avec tous ces problèmes de regarder les étoiles et les constellations, etc. En s'imaginant que là-haut, il y avait la vraie vie. Celle des êtres vivants sans corps, et que, pour une raison ou pour une autre, nous, on descendait de là-haut. Alors les uns pensaient qu'on avait été mis dehors à coups de pied aux fesses par le bon Dieu qui nous avait chassés, comme Adam et Ève avaient été chassés du paradis. Hein. D'autres, comme les cathares, ils disaient c'est le démon qui a fait un trou dans le ciel et hop, on est quelques-uns à être descendus du ciel sur la terre. Bon, mais peu importe, on a dans notre idée, au fond de nous-mêmes, ce sentiment, cette tendance à imaginer que un monde sans corps, ça a pu exister, c'était super bien, et que peut-être après la mort, on va se retrouver à être des êtres vivants, mais sans un corps. Donc, on est là, vous voyez à quel point c'est extrêmement central, cette constitution de notre corps, marqué par la place du sexe. Mais il y a un deuxième aspect qui se greffe là-dessus, pas seulement le rêve de devenir un être vivant, mais sans corps, c'est le rêve de ne pas mourir. C'est-à-dire le rêve d'aller directement vers l'immortalité. Comment on n'en sait rien. Et alors, la seule solution qu'on a trouvée, quand on se regarde, on se dit, mais au fond, les femmes, par rapport aux hommes, ce sont elles qui fabriquent de l'immortalité. Pourquoi ? Parce qu'elles fabriquent de la descendance. Alors la descendance, c'est pas l'immortalité, mais ça y ressemble un peu. Vous voyez, ma vie va être prolongée, la vie de mon corps, de mon lignage, parce que le corps et le lignage, ça ne fait qu'un. Les ancêtres, moi et les descendants, on est là sur une ligne, en quelque sorte d'immortalité, et qui donne un pouvoir énorme aux femmes. Et d'où, pour nous les hommes, ça pose un problème terrifiant, si on peut dire. Et si les femmes s'arrêtaient de faire des enfants, comment ça se passerait? Et si surtout elles décidaient de faire que des enfants femelles plutôt, que des filles, et pas des hommes, on perdrait tout pouvoir. Enfin, vous voyez toutes les questions que dans l'inconscient, dans l'imagination de l'humanité, ces choses-là nous ont trafiquées et comment elles sont à la base de notre vie aujourd'hui. Il faut pas l'oublier. Or, vous allez me dire, mais ça, le miel, ça a rien à voir avec ça. Et si justement, parce que la vie des abeilles, en quoi consiste-t-elle? À fabriquer du miel. Pas autre chose. Et c'est ça qui est au cœur de l'activité. Parce que elles travaillent, les abeilles, mais elles n'ont pas de sexualité. Il n'y a qu'une abeille dans tous les seins. Il ne peut pas y avoir deux reines. Il y a une seule abeille qui est reine, il y a une seule abeille qui a un sexe marqué et qui a une vie sexuelle. Et qui va enfanter, qui va donner vie à d'autres petites abeilles, mais qui, elles, ne seront absolument que des travailleuses. Elles n'ont pas d'activité sexuelle, elles n'ont pas d'organes sexuels. Vous voyez, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça nous montre que les abeilles, quand leur travail, c'est d'aller prendre quelque chose dans les fleurs, qu'elles n'ont pas, elles, hein, le nectar des fleurs, elles le prennent, elles l'ingurgitent, elles le laissent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ne fabriquent pas d'ordures, les abeilles. On va dans la ruche, il n'y a absolument pas de détritus. L'abeille garde le nectar à l'intérieur d'elle-même, elle le malaxe, elle le mâche, elle le triture, etc., etc. Et puis, arrivé à un certain niveau, elle le donne à une autre abeille, travailleuse comme elle, qu'elle lui passe par le haut, par la bouche, disons, pour aller vite, vous voyez, et ça continue. Et au bout de 4 ou 5 passages comme ça, on est toujours resté dans une sorte de vase clos à l'intérieur du corps de l'abeille, sans produire jamais de détritus, sans qu'il y ait un trafic quelconque, comme nous on fait de la cuisine, et du coup on fait cuire, on coupe, etc., etc., et on produit des ordures pour aller vite. Avec les abeilles, le miel, c'est le signe d'un produit en circuit fermé. Complètement. Parce que la dernière abeille qui a atteint le niveau de miel valable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le mettre dans une alvéole et par-dessus, elle va le fermer. Et c'est fini. Et nous, on va manger ce miel. Ou bien elles vont manger ce miel pour se nourrir, pour nourrir les larves, bon, il y a toutes sortes de miel, et il y a la gelée royale, etc., etc. Mais on est toujours dans le même système, c'est-à-dire que l'abeille est quelqu'un qui est capable de produire de la vie, de produire des êtres vivants, puisque du miel, elle va mettre le miel dans une alvéole, et à partir de là, les larves vont sortir du miel, et à cause de la chaleur, hein. Et elles vont sortir du miel, et à partir de ces larves, on va avoir de nouvelles abeilles. Donc, cette idée d'avoir une production de vie, une production d'êtres vivants, en circuit fermé, dans un monde clos, vous voyez, en circuit fermé, c'est absolument capital, c'est fondamental. Et ça, c'est ce qui a fait réfléchir les hommes et les femmes, enfin l'humanité, depuis qu'ils ont rencontré les abeilles, c'est-à-dire depuis des milliers et des milliers d'années. Bon, nous, on va s'arrêter une minute pour réfléchir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Mungerila ne dumbedefe, mungerila ma sheria, mungerila ne dumbedefe. I balle ko ki te furuma ko fente ne fene dumbe de feu. I falle ko ki te furuma ko fente ne fene dumbe de feu. I teri le ko ki te furuma ko fente ne fene dumbe de feu. I kena dimio, I kena kasi, I gana amigo e jarabi kason. I kena dimio, I kena kasi, I gana amigo jarabi kason. Mungerila jarabio, mungerila ne dumbe defo. Mungerila masheria, mungerila ne dumbe defo. Ngora ke la lembe sodala yo sepete jerabi ma mfala lembe sodala yo jerabi jerabi ma yo sharia inaba mkerila jerabi yo Mungerila ne dumbe defo, mungerila masheria, mungerila ne dumbe defo, mungerila jarabi, mungerila ne dumbe defo.
Corde 2022, Michel Bonnet. Le miel des abeilles. Nous disions que le miel était produit par les abeilles en circuit fermé. C'est-à-dire que la qualification, enfin, la marque fondamentale du travail de l'abeille, c'est de produire quelque chose qui n'a jamais eu de contact avec l'extérieur. À partir du moment où elle a ingurgité le nectar des fleurs, c'est elle toute seule dans son corps, à l'intérieur de son univers tout à fait fermé, de ce monde clos, qui est le corps de l'abeille travailleuse, elle va créer un produit qui va devenir un produit vivant, puisque ça va devenir une larve, mais sans aucun trafic, sans aucun travail supplémentaire, un travail différent de celui de l'abeille. Autrement dit, le miel apparaît comme un produit pur. Un produit qui n'a pas d'autre valeur, d'autre force que d'être disponible pour donner de la vie. Il n'y a rien dans le miel qui va rester du côté que l'on jette, qui va vers la pourriture, vous voyez. Et du coup, les hommes se sont habitués, les êtres humains se sont habitués à penser le miel comme une nourriture pure, totale, idéale. On peut l'ingurgiter, il n'y aura pas de détritus, il n'y aura pas de perte, on ne laissera rien pour d'autres, etc. Et donc, de là, on en est arrivé, vous connaissez ceux qui... Quand on connaît un peu la mythologie grecque, par exemple, on est arrivé à dire que le miel, c'était la nourriture des dieux. Parce que, justement, on pouvait offrir aux dieux du miel, et que ça allait leur permettre de vivre, etc. Ils n'avaient pas de corps, donc il n'y a pas de problème. Et vous voyez donc comment le miel, à cause de ce lien entre l'abeille et le travail de l'abeille, mais sans rapport avec les autres éléments de la nature, et l'abeille seule, à l'intérieur de son corps, donc, elle a fabriqué des êtres vivants. Elle a fabriqué des dieux, on pourrait dire, puisque ça peut être des êtres sans corps, hein, en vase clos. Mais vous voyez de suite que la femme... Si on regarde maintenant à l'intérieur on compare avec l'intérieur de l'être humain, comparer l'abeille à l'être humain, c'est de suite dire que mais la femme, c'est ce qui ressemble le plus à une abeille. Pourquoi ? Mais parce qu'à l'intérieur de son corps, elle va fabriquer un être vivant sans aucune intervention une fois que le, une fois qu'elle, enfin, qu'elle a décidé qu'elle était enceinte. Et c'est elle qui va le fabriquer, qui va le, comment, autrefois, aujourd'hui, c'est, bien sûr, aujourd'hui, la science nous enseigne bien d'autres choses, mais autrefois, on ne savait pas comment, entre les os, les liquides, les, le sang, le sperme, etc., tout ça, comment le mélange pouvait produire un être humain, hein, on ne savait pas. Mais ce qu'on voyait, c'est que ça se produisait, c'était que la femme produisait, en quelque sorte, de la descendance, c'est-à-dire un début d'immortalité, comme je disais tout à l'heure, hein, puisque la descendance, c'est quand je serai mort, il y aura quand même un peu de moi qui va continuer à vivre. Vous voyez. Et donc, pour les hommes au sens viril du mot, la femme avait une place tout à fait particulière, extrêmement importante, et il fallait que l'homme, d'une façon ou d'une autre, arrive à garder le pouvoir sur la femme. Parce qu'il voulait garder un certain pouvoir sur son immortalité, sur sa descendance. Et d'où, comment faire pour ça? Eh bien, comme on fait pour les abeilles, quand on veut garder le miel pour nous, on les met dans une ruche. Et on les laisse pas dans la nature, on va essayer d'enfermer l'essaim plus ou moins, etc. La ruche, on va essayer d'enfermer les abeilles dans la ruche, on va les mettre en quelque sorte dans une maison. Eh bien, la femme, l'homme, va essayer de la mettre à la maison, de l'enfermer dans un espace clos, hein, lui faire continuer. Sa particularité qui est de fabriquer de la vie à l'intérieur de son corps, mais au lieu de le laisser à l'intérieur de son corps simplement, on va la mettre à la maison, on va la domestiquer. Domestiquer, vous savez l'origine du mot domestiquer, domus en latin, la maison. Donc l'essentiel pour les hommes, ça va être de, comme ils veulent domestiquer les abeilles pour avoir du bon miel ou du miel en permanence, on va domestiquer la femme, on va l'amener à la maison. Et c'est pour ça, et pour ça, il faut absolument qu'elle puisse travailler en vase clos, c'est-à-dire qu'elle arrive à la maison vierge, qu'on ne l'a jamais fait travailler, elle n'a jamais eu l'occasion de fabriquer un être vivant avant le mariage. Et là, vous voyez comment dans beaucoup de religions, dans beaucoup de civilisations, mais au moins pour nous, autrefois, et ça disparaît un peu, mais enfin, moi-même, quand j'étais il y a 50 ans, c'est pas si vieux que ça, une fille n'était pas vierge au moment du mariage, ça gênait un peu aux entournures, quoi. Et on savait pas si elle avait le droit d'apporter une robe de mariée blanche parce qu'elle n'était pas immaculée. Et vous voyez, toutes ces idées-là. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça change. On est dans un autre monde. Mais quand même, même avec cet autre monde-là, le problème auquel on a été habitué jusqu'à maintenant, c'est que les hommes ont construit leur relation à la femme, aux femmes, et ont construit la société avec cette idée qu'il fallait garder la femme comme un vase clos à l'intérieur duquel elle fabrique de la vie, et ça, il faut que ça reste à la maison, parce qu'à la maison, moi, homme, je suis le patron. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'égalité homme-femme au niveau politique, c'est de maintenant. C'est d'il y a quelques secondes dans l'histoire par rapport à 20 ou 30 000 ans en arrière. Si on prend simplement la démocratie grecque, qui est pourtant Athènes, c'est là où on a fait la démocratie, etc., il n'y avait que l'homme qui était conçu comme citoyen, qui avait un droit de citoyen. La femme ne pouvait pas être considérée comme citoyenne. Elle était avec l'homme dans un foyer citoyen. Mais elle n'était pas citoyenne, elle n'avait pas droit au vote, pas droit à ceci, pas droit à cela. Donc, vous voyez comment on est à la base de cette domestication, de cette oppression, en quelque sorte, de l'homme sur la femme. Cette volonté de, même si elle n'est pas très consciente, hein, mais cette habitude qu'on a de mettre la femme toujours à la disposition de l'homme, de la mettre, et pour cela, de l'empêcher de bouger. Vous voyez, le temps qu'on a mis pour les garder à travailler à la maison, à faire un travail comme l'abeille, de la nourriture, du nettoyage, de l'aménagement de la maison. Quand on allait plus loin, elles travaillaient au jardin, au poulailler, à la porcherie, mais pas beaucoup dans les champs. C'est tout doucement que on s'est mis à évoluer vers le travail. Et même aujourd'hui, si on regarde, la situation des femmes dans le monde du travail, c'est pas du tout l'égalité avec les hommes. Et pas que c'est pas qu'une question de salaire. C'est une question, par exemple, de contrat de travail, par exemple. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont en contrat de travail, toutes sortes d'intérimaires, etc., etc. Vous voyez aujourd'hui comment on pousse les femmes à avoir le travail à la maison avec l'ordinateur et de suite on va pouvoir exploiter encore plus la possibilité des femmes, la possibilité de production des femmes grâce à ce travail en distanciel, enfin à la maison, etc. Donc voyez cette relation homme-femme. À partir de l'observation des abeilles par l'humanité, comment ça nous a amené, ça nous a facilité ce sentiment de garder la femme tout à fait à la disposition de l'humanité, c'est-à-dire de la laisser, de continuer à lui faire produire de la vie, de la descendance, des enfants, etc., mais au service de l'homme, au service du lignage, au service de la généalogie des hommes. Habituellement, la généalogie, même aujourd'hui, elle se fait avec les noms des hommes, beaucoup plus qu'avec les noms des femmes, etc. Et donc, on a été porté à penser que ça pouvait nous ramener vers une sorte de paradis terrestre, vers une sorte de lien avec la vie des dieux. Et voilà comment le miel est à la base, est au cœur de tout l'imaginaire qui est lui-même à la base de notre vie sociale. On s'arrête un petit moment supplémentaire.
CFM Cordes, trois lettres, un esprit, le rock. Thank you.
encore de 2022, Michel Bonnet. Donc, nous disions que la comparaison entre les abeilles et l'humanité nous montrait que les femmes étaient véritablement comme des abeilles, ou que dans la vision virile, de machiste, je dirais, des hommes, de la moitié de l'humanité, il fallait que les femmes soient comme des abeilles, c'est-à-dire qu'elles soient totalement consacrées au travail pour fabriquer de la vie, fabriquer de la descendance. N'oublions pas que quand on observe bien une ruche, un essaim, comme le faisaient les gens autrefois, au Moyen-Âge et même avant, tout le temps, on n'avait pas les moyens d'observation scientifique qu'on a aujourd'hui, on avait déjà découvert que les mâles, les abeilles mâles, ne fichaient rien, ne faisaient rien, elles ne fabriquent pas de miel. Les bourdons, dans la ruche, ne font que manger du miel. Ils se la coulent douce, on dirait en quelque sorte. Et ils sont les seuls. Eux sont des abeilles sexuées, mais le fait d'être une abeille sexuée, c'est justement ça, c'est d'être un mâle. Et donc, ils se gavent du produit des abeilles. Ils les mangent et ils mangent donc le miel jusqu'au moment où la reine va décider que elle a envie de se mettre à travailler sexuellement, ce qui arrive très rarement, hein, ça arrive, vous voyez. Et à ce moment-là, les bourdons, avec tous des problèmes de liquide, d'odeur, etc., etc. Bref, ils viennent, ils suivent la reine mère en vol, et c'est à ce moment-là qu'ils inséminent la reine mère. Et il faut savoir que ça ne se passe qu'une fois dans la vie du bourdon. Il ne peut poser qu'un seul acte sexuel, je dirais. Un seul. Parce que, en déposant sa semence dans la reine, il abandonne également son sexe. C'est-à-dire qu'une partie de lui-même, et il meurt. Donc, c'est un type tout à fait, en fait, c'est une abeille tout à fait particulière, quoi. C'était simplement pour dire que il y avait des bourdons qui existaient. Mais la piste qu'il faut continuer, c'est que ce monde idéal dans lequel on a vu que les abeilles faisaient du miel sans fabriquer d'ordures, avec un miel qui est totalement pur, qui est une vie absolument, enfin une vie sensationnelle, etc., ça a donné l'idée donc aux hommes que on descendait des dieux et un jour on remonterait vers les dieux. On serait de nouveau plus ou moins divin. Et donc on a cette idée de lutter contre la mort par tous les moyens. Et on s'est habitué, on a découvert, les religions petit à petit, sous la pression machiste évidemment, ont imaginé qu'au début de l'humanité, il y avait un état qui était le paradis, qui était l'idéal, où on était comme des dieux, c'est-à-dire le corps ne nous embêtait pas. Autrement dit, le sexe ne nous embêtait pas. La marque, si on veut étudier les différentes façons d'imaginer le début de l'humanité, mettons le paradis terrestre pour aller vite, puisque on est en France et on est habitué beaucoup au langage chrétien, eh bien au langage biblique, il y a au début, à la création du monde, il y a la nature, etc., etc., etc. Et puis là-dedans, il y a l'homme et la femme. Il n'y a pas de sexe. Ils sont pas sexués. Et ils ne se fatiguent pas à travailler, rien. Bon, tout se passe bien. Là où ça va pas du tout, c'est quand tout d'un coup, d'une façon ou d'une autre, sous la pression de la femme, bien sûr, ils se mettent à découvrir qu'ils ont deux sexes différents. L'homme et la femme découvrent leur constitution sexuelle. Ils sont sexués. Et ça change absolument tout. Et la première chose, c'est que déjà, le bon Dieu décide de les mettre dehors du paradis. voyez, dès qu'on découvre qu'on est un être sexué, on ne peut plus être au paradis. On tombe dans les problèmes posés par le poids du corps qui va aller, qui va nous entraîner inexorablement vers la mort, vers la nourriture, vers la pourriture, etc. Et donc, on sent que à l'intérieur de nous-mêmes, même dans notre inconscient, cette idée d'une vie sans corps, c'est un peu l'idéal, mais en même temps, c'est une vie sans corps, ça veut dire une vie sans sexualité. Et de suite, vous voyez comment les religions, les religions qui sont entre les mains des hommes, qui sont fondamentalement machistes, hein, c'est le clergé qui tient les religions, enfin là, beaucoup de religions, parlons de l'Europe, bien sûr, quoi. Hein, comment on va s'arranger pour que le paradis, l'idéal, soit ce qui ressemble à un lieu sans sexualité. Autrement dit, il faut être célibataire, il faut faire le vœu de chasteté, il faut rentrer dans un couvent, il faut pas rencontrer homme-femme, il faut séparer homme-femme, etc. Vous voyez comment ça, c'est profondément lié à cette idée de la nourriture des dieux, qu'est le miel, et qui peut devenir la nourriture des hommes à condition de rester dans ce système de vase clos. Tout ça, ça nous paraît loin de tout. Pourquoi ça pose un gros problème? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'imagination. C'est qu'aujourd'hui, on l'a évoqué juste au départ, le miel est en train de disparaître. Plus exactement, il n'y a plus que des étiquettes qui écrivent le mot miel sur un pot de confiture, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas le produit, ce produit vivant, ce produit qui ne vient pas du travail intérieur de l'abeille, qui n'a pas été produit en vase clos. Le miel que l'on a dans les pots de miel vendus sur les grandes surfaces, quelles qu'elles soient, c'est toutes les mêmes. Hein. À l'heure actuelle en France, d'après ce que on peut voir, d'après les scientifiques, 80% du miel vendu en France n'est pas du miel. Hein. C'est fabriqué par de la saccharose, fabriqué par les betteraves, par tout ce que vous voulez. D'abord, Napoléon a beaucoup travaillé à ça. Il a lancé la betterave pour lancer le sucre et qu'à partir du sucre, on fasse du miel, etc. Donc, ça retransforme profondément la société. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde de demain, il est déjà présent à travers ces pots de soi-disant miel qui n'en est pas. C'est-à-dire, on vit sur un mensonge. On croit manger du miel et c'est pas vrai. C'est autre chose. On ne sait plus quel est le vrai goût du miel. Si on n'a pas été éduqué à cela, si on n'a pas eu la chance d'avoir du vrai miel fabriqué par un apiculteur à côté de chez nous, dans la forêt de la Grésigne ou au bord du Cérou, j'en sais rien, quoi, hein, on ne saura pas ce qu'est vraiment du miel. Quand on va voir des chefs pâtissiers, des professionnels, mettez-leur deux, trois pots de miel à goûter à l'aveugle, ils vont vous dire de suite, ça c'est du miel, ça n'est pas. Ça, il n'y a pas de goût de miel. Donc, on nous fait vivre sur des images, sur des mythes, mais pas sur des réalités. Et les images, on les transforme comme on veut. S'il n'y a plus de miel pour nous transformer, pour nous faire réfléchir, etc., petit à petit, nos grands mythes sur la relation à la nature, sur la place du sexe, sur la place de la médecine dans la lutte contre la mort, etc., sur ce qu'est la nourriture, tout ça, ça disparaît, ça s'évanouit, ça devient des mots qu'on imprime comme on veut, etc. Et donc, on va vers une dégradation énorme de notre vie, disons, humaine, si on ne fait pas attention. Et Je voudrais simplement, en partant, je ne suis pas du tout plus écolo qu'un autre, ni moins sans doute, mais enfin, j'essaie de réfléchir un peu à tout ça. Mais quand on voit la pub qui est faite par des tas de milieux soi-disant écologistes, qui nous parlent de nourriture bio, etc., mais on arrive à lire, je ne sais pas si vous lisez des livres là-dessus, sur la nourriture bio, etc., mais on arrive à trouver des soi-disant des spécialistes, des soi-disant toubibs, etc., qui nous disent que le miel, le miel est la nourriture idéale aujourd'hui pour soigner la santé, etc. Alors que on sait très bien que ce miel, il est fabriqué par de la saccharose, donc c'est un aliment qui est mort. C'est à partir, vous voyez. Et donc on enferme la vie et le développement dans quelque chose qui est mort. C'est pas vrai. Le miel ne va pas nous guérir d'un certain nombre de maladies. Le miel ne va pas nous donner de l'énergie pour aller vers toujours plus de vie, etc. On n'en a plus de miel. Si on continue comme on est parti, si on accepte d'avoir une chose. Quand on pense que on vient de découvrir les études du gouvernement sur la lutte contre les fraudes, non, il y a 2 ans, il y a une étude qui a été faite et qui montre que sur les marchés locaux, comme le marché de Cordes le samedi, je ne dis pas à Cordes forcément, hein, au niveau national, il n'y a que 40% du miel vendu qui est du vrai miel d'apiculteur. Même les apiculteurs, au titre individuel, pour pouvoir faire la concurrence, pour pouvoir vivre de leurs produits, sont obligés de le mélanger à d'autres produits. Pour pouvoir survivre. Donc, on en arrive à une transformation à la fois de nos habitudes de pensée, de nos relations humaines, de nos rêves et de la façon donc de construire la société. Et c'est pour ça que il est important de réfléchir à tout ce système qu'on a autour de l'abeille et autour du miel. Et il n'y a pas que ça. Il y a la gelée royale, etc., etc. Hein? Vous voyez, on est sur un problème fondamental, mine de rien. Et on comprend très bien que l'ONU ait tiré le signal d'alarme en nous disant, réfléchissez vraiment qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous faisons avec les abeilles et avec le miel, parce qu'il y va de notre avenir, il y va du monde que nous sommes en train de construire, on est vraiment mal parti parce que on va vers un monde de mort et non pas de vie. C'est-à-dire le contraire d'un monde où les corps pourraient être nourris avec une vie qui n'a plus besoin du corps, des êtres vivants pourraient continuer à vivre sans avoir besoin du corps. Donc, vous voyez, on est sur des fantasmes qui sont à la base de notre vie en société, et il faut vraiment réfléchir à cela. Bon, ce n'est qu'une toute petite réflexion qu'on a fait aujourd'hui, mais enfin, j'espère que vous aura donné envie d'étudier davantage le monde des abeilles, le monde du miel, et de faire attention à ces produits qui nous préparent au monde de demain, qui va obligatoirement changer, qu'on le veuille ou pas. C'était Corde 2022,
Michel Bonnet. Warnga pas, why dem do chow? Yo sonu digi dinga dem do chow.
There was a time I had worked out a plan to get what I want right here in my hand. My plans fell through as they tend to do. I had to laugh and let it go.
Dekel nanga dem paka nardisa. Since the Kusmi Roti, you go back to Mudila, would have found more so. since you look me rotty.
I walked away in the very next day. Guess what I found, as if it were plain. Just what I thought had been out of reach, all came back to smile at me.
All these dreams, they trip from me. They all come back so easily.